Voici votre émission Antiquissimo.
Dédiée, comme son nom l'indique,
à l'Antiquité.
Archéologie.
Reconstitution.
Histoire.
Fiction.
Livre. Et film.
L'Antiquité avec un grand A.
L'Antiquité vivante.
L'Antiquité polymorphe qui nous unit tous.
Bienvenue au Musée de la Romanité, bienvenue à Nema Oussous et bienvenue à Cécile Carrier qui nous parle dans la suite logique de l'émission précédente du culte impérial ou du culte domestique dans les villas, puisque nous avons pour projet en plusieurs volets d'évoquer tout ce qu'on trouve dans la maison.
Voilà, tout à fait. Bonjour à tous et à toutes. Oui, la dernière fois, nous avions commencé à présenter le décor sculpté dans l'habitat, on va dire, aussi bien dans les maisons, les appartements, tout ce qui est lié au domestique. Et j'avais proposé de commencer par le culte domestique, qui est parfois lié avec le culte impérial d'ailleurs, c'est pour ça qu'on en parlait. Et nous n'avions pas tout à fait fini, on avait évoqué le culte des divinités locales.
Ne l'oublions pas, il ne faut pas la fâcher, hein, elle nous protège.
Voilà.
C'est la Bonadea.
Et maintenant, on va parler de la Bonadea. Cette Bonadea qui nous vient directement du Latium et dont on trouve en fait à Nîmes deux exemplaires, une que l'on peut voir au Musée de la Romanité, donc dans la section religion, et une autre qui malheureusement a disparu mais que l'on connaît grâce à Ruhlmann qui nous le cite, et également à Ménard qui nous ont fourni un
mais elle
dessin.
A disparu comment en fait?
Eh bien, elle a été achetée, elle est partie je crois en Angleterre, puis après on perd sa trace peut-être à Paris, enfin bon. C'est tout un périple que je vais essayer de retrouver, mais qui n'est pas simple. Et qui était une belle statue, parce qu'elle était plus grande que celle que l'on voit au musée actuellement.
C'est fou,
et qui
ça,
était complète,
hein,
ouais, ouais. A priori, puisqu'elle avait son bras, qui permet de l'identifier comme Bonadea, et non pas comme une Fortuna, puisque les deux types sont très proches, entre la Fortuna et la Bonadea. Ce qui les différencie, c'est le serpent qui court le long du bras droit. C'est pour ça d'ailleurs que je dis toujours que l'identification de la Bonadea à Nîmes est une hypothèse de ma part, puisque nous n'avons pas gardé son bras. Voilà. Mais c'est vrai que quand on compare cette statuette avec d'autres images de Bonadea, franchement, elle leur ressemble énormément.
Alors, est-ce qu'on peut dire à peu près quelle est sa taille? Parce que
alors,
ça,
elle fait à peu près 50 cm, et celle qu'on a malheureusement perdue, elle devait faire entre 70 et 80. Donc, beaucoup plus grande.
Avis aux auditeurs, si vous avez quelques informations, nous la recherchons activement.
Voilà, warm tea de Bonadea. Pourquoi je la cite là dans notre chapitre sur le culte privé? C'est parce qu'elle a été trouvée au boulevard Jean Jaurès, dans la maison Cusson, ce qu'on appelle. Cette maison Cusson, elle est dans un secteur d'habitat du boulevard Jean Jaurès, d'ailleurs. Pas très loin de là où
on a trouvé
les fameuses mosaïques et toutes ces maisons extrêmement riches lors des grandes fouilles où on a sorti le Neptune, entre autres, oui. Et les fameuses mosaïques. Donc, on est vraiment dans un secteur d'habitat riche et un secteur d'habitat qui, manifestement, a accueilli des gens qui venaient du Latium. Parce que là, le culte de Bonadea, en dehors du Latium, ça n'existait pas avant. Donc, toutes les Bonadea en sculpture,
à Glanum,
les inscriptions qu'on trouve ailleurs, on a notamment le magnifique hôtel au musée d'Arles, là, automatiquement, ça veut dire que ce sont des gens qui viennent du Latium et qui ont ramené leur culte avec eux. C'est une déesse qui, après, va prendre beaucoup d'ampleur puisqu'elle va un peu concurrencer Cybèle. Hein. Elles sont
on est toujours dans l'écoute de la déesse.
Voilà,
hein,
là, on est sur un culte très particulier, ouais. Qu'on a déjà développé lorsqu'on avait fait une émission vraiment pour elle. Donc, je ne vais pas aller plus loin. Mais pour nous, là, dans notre sujet d'aujourd'hui, c'est très intéressant parce que là, on est vraiment au cœur d'une maison riche, avec un culte venant de là-bas, c'est le cas de le dire, du Latium, qu'on a ramené avec soi et qu'on a ramené dans la colonie. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de particulier qu'on n'a pas toujours l'occasion de pouvoir souligner. C'est pour ça que j'ai tant insisté sur cet objet, que parfois on ne regarde pas plus que ça.
Voilà, alors parce qu'elle est petite peut-être, mais quand on la regarde de près, on voit de multiples
détails
incroyables.
Hein. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que les médiatrices avaient tant insisté pour en faire une copie tactile, pour que les gens puissent toucher tous ces détails et puissent prendre conscience de tous ces détails, y compris les déficients visuels qui peuvent ainsi se rendre compte de la richesse et puis de c'est un petit objet merveilleux, extraordinaire.
Mais dans l'Antiquité, d'ailleurs, on devait la toucher pour avoir...
Ça, c'est pas sûr. Il faut imaginer qu'elle est investie de la divinité. C'est vraiment là, si on est dans une image de culte, on peut la revêtir, on peut lui verser des libations, on peut la couronner, mais je pense pas que tout le monde était habilité à la toucher.
Grâce à chaque fois de ce qu'on touche.
Oui, elle est quand même investie du pouvoir de la personnalité de la divinité. Donc il faut faire attention avec ça.
Alors, bon, qu'elle veille sur nous, qu'elle continue de veiller sur nous toujours.
Ah oui, pour le coup, une divinité très importante pour le foyer. On dirait presque concurrentielle de Vesta, mais elles ne sont pas tout à fait sur les mêmes fonctions. Vesta, c'est vraiment le feu.
Et très récemment, en tout cas dans l'été, nous avons évoqué un roman qui est dédié à un personnage qui a existé, Claudia, et au scandale de la Bonadea à Rome.
Tout à fait, ouais, dans la maison de César d'ailleurs.
Dans la maison de César. Alors, refermons cette parenthèse, n'offensons surtout pas la déesse et regardons un autre thème maintenant.
Voilà, oui, parce qu'on a passé un petit peu de temps sur le culte domestique, mais comme on était sur les divinités, je me suis dit que la liaison était facile pour parler de copies que l'on trouve dans les décors domestiques, des copies de chefs-d'œuvre de la Grèce antique, hein, puisque les Romains sont devenus petit à petit friands des grands chefs-d'œuvre créés par les plus grands sculpteurs de la Grèce classique et hellénistique et voulaient avoir des copies chez eux.
Oui, et puis il faut peut-être rappeler qu'aujourd'hui, on est dans le culte de l'originalité à tout prix.
Ah,
on fait
tout.
Des procès à qui a copié, etc. Le plagiat est une notion totalement indifférente dans l'Antiquité.
Au contraire, il faut avoir tous le même.
On est dans le culte de l'imitation.
De l'imitation parce que ça fait romain. Voilà. Alors, quand je dis ça, ça me fait toujours penser à un des Astérix.
Oui.
Où un personnage essaye de se romaniser et veut avoir des portiques avec des colonnades, etc. Et l'autre lui demande, mais pourquoi tu veux ça? On a déjà des piliers en bois et tout. Oui, non, mais parce que ça fait romain. C'est tout à fait ça. On est vraiment dans le. Dans
ce il va même jusqu'à construire un aqueduc là où il n'en a pas besoin.
Il n'en a pas besoin parce qu'il a la source au pied de sa maison. Voilà, c'est exactement ça. Et donc la copie des œuvres, c'est vraiment. Et puis aussi, les Romains s'éduquent au beau aussi.
Oui.
Les riches Romains ils reviennent de Grèce avec des étoiles dans les yeux. Ils ont vu des merveilles. Il ne faut pas oublier que les Romains, à l'origine, ce sont des gens de la terre.
Des paysans
avant tout.
Il ne faut jamais
l'oublier. Ils sont devenus guerriers. Et après, ils ont appris le luxe, mais ils n'habitaient pas dans le luxe. Hein. Le luxe vient de l'Orient.
Exactement.
Et d'ailleurs, il y a eu une grosse bataille entre les traditionnalistes républicains et les nouveaux. Riches, les grands généraux qui arrivaient de la Grèce, de tous ces territoires richissimes, avec des merveilles.
Et là, c'est Lucullus, par exemple.
Alors là, on est entre deux mondes qui s'affrontent.
Et on retrouve justement ça dans la cuisine aussi, c'est exactement la même chose. Écartelé entre les origines rurales.
C'est ça, dans le vêtement aussi.
Et l'orientalisme.
César s'est fait beaucoup critiquer parce qu'il s'habillait dans des vêtements de luxe, en soie, etc., parce qu'il a ramené ça de ses conquêtes, mais il s'est fait beaucoup critiquer pour son goût du luxe. Donc voilà, donc on est... D'ailleurs
Auguste va faire l'inverse, parce qu'il va se
justement
d'être habillé homemade.
Il n'a pas envie de se faire trucider comme son tonton,
il va insister
dessus, mais enfin, ça ne l'a pas empêché d'habiter dans un magnifique palais. Le luxe, ça dépend...
Oui, mais ça se retrouve à la nourriture, parce qu'il se nourrit très simplement.
Oui, parce qu'il a des problèmes d'estomac aussi. N'oublions pas qu'il y a le revers de la médaille.
Il grignote toute la journée, en fait.
C'est ça. Donc voilà, donc tout ça pour dire qu'il y a des chefs-d'œuvre, donc des copies des grands chefs-d'œuvre grecs que l'on retrouve partout, même à Nîmes, on en a même un certain nombre. Donc là, je ne vais citer que ceux que l'on voit, que les visiteurs peuvent voir.
Vous en avez sélectionné deux
particulièrement. Voilà. Oui, parce que les autres ne sont pas... On ne peut pas tout mettre. On a trop de choses, donc on ne peut pas tout mettre.
Trop de beau, tout le beau.
Voilà. Et donc, les deux que je vais vous présenter sont dans le secteur religion aussi. En fait, on ne sait pas du tout dans quel contexte ces œuvres se trouvaient. Donc, elles peuvent aussi bien avoir été dans un espace religieux que dans une maison. Et vu leur style... Vu leur typologie et vu leur dimension, je serais plutôt à même de penser qu'on serait plutôt dans du domestique et dans du « je vous montre mes copies de chefs-d'œuvre antiques ». voilà, de chef-d'œuvre grec. Donc, pour citer, donc, on a la statue d'Apollon, de type lycien, ce qu'on appelle. Alors, sachant que le nom...
Toujours aussi androgyne.
Ah, oui, ah bah surtout dans cette voilà, typologie-là, oui, ça, oui. Oui, oui, il est particulièrement androgyne, bah comme les Bacchus qui sont aussi très androgynes quand ils sont en jeune homme comme ça. Alors, le nom de lycien, souvent les gens se demandent qu'est-ce que c'est que ce mot barbare. Alors, on n'est pas sûr de la provenance de ce mot. Les spécialistes s'opposent... entre deux hypothèses
étymologiques.
La première serait que l'original proviendrait du gymnase, du lycée, et donc son nom viendrait de là. Puisque Apollon, ce n'est pas que le dieu de la poésie, hein, c'est aussi le dieu du sport,
du corps parfait.
Et d'autres disent que le mot lycien viendrait de Lux, la lumière, puisqu'il est le dieu solaire. Hein. Donc voilà. Donc là, je peux pas vous dire. Je suis pas spécialiste en la question. Les deux se tiennent. Hein, donc pour vous dire, je ne sais pas. En tout cas, la statue d'origine est attribuée à Praxitèle, mais sans qu'on en soit vraiment certain. Mais en tout cas, viendrait du IVe siècle. Alors, de toute façon. Le côté très alangui, très efféminé, très allongé du corps, on est effectivement plutôt dans du quatrième. Parce qu'au cinquième siècle, on est dans des corps plus musclés, plus masculins, même pour un Apollon. Et donc là, on a vraiment une copie de cet Apollon lycien. Et,
une très bonne copie. Hein.
Très bonne copie. Et une très bonne copie qui se réfère à la copie de Florence, qu'on appelle l'Apollino de Florence. Là, on est vraiment dans la même lignée, puisque dans les copies de ces originaux grecs, on a différentes copies qui viennent de différents artisans, différents ateliers, et il y en a qui se ressemblent plus ou moins. Donc, c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on sait plus ou moins à quoi ressemblaient les originaux qu'on a perdus, malheureusement. Et donc, là, celui de Nîmes, vraiment, est dans la lignée de celui de Florence. Donc, peut-être qu'ils viennent du même atelier.
Et quelle dimension pour qu'on se rende compte
Là, il fait un mètre à peu près. Quelque chose près, il fait
oui,
un mètre.
C'est une grande statue.
Oui, donc lui, vraiment, c'est vrai qu'on pourrait penser qu'il viendrait de...
Et alors là, tous les détails, là aussi, hein, il faut s'en approcher. Il faut se précipiter au musée pour aller l'admirer.
Oui, notamment
tous les détails,
le...
les pieds, vraiment...
Et puis le support aussi, ouais. Avec le carquois, avec le bandeau.
Et là, bon, cette copie, on l'a déjà dit, elle est intacte.
Il y a un petit peu de restauration parce qu'elle était en fragments quand même.
Hein.
Alors, elle viendrait de... Enfin, parce que là aussi, on est en Perrault. Donc, il y a le Perrault-fils qui nous dit que elle viendrait de Lédignan, mais on a d'autres documents qui nous disent qu'elle viendrait du sanctuaire de la Fontaine. Mais ça nous paraît curieux. Pour vous dire, je ne sais pas, du coup, si elle vient de Lédignan, on sait qu'il y avait des maisons, il y avait une villa, donc ça ne serait pas incongru,
oui,
hein, loin
oui.
S'en faut, hein, on serait bien justement au contraire dans une zone d'habitat. Mais là, vraiment, c'est difficile de vous dire. Voilà, je ne peux pas beaucoup aller plus loin sur cette statue par rapport à notre sujet, mais en tout cas, c'est vraiment le type d'objet qui aurait pu décorer une maison ou même un jardin, le péristyle de la maison ou la salle à manger, typiquement.
Alors, voilà. Le deuxième objet que vous avez choisi, c'est une très, très belle tèche.
Oui, alors c'est... d'ailleurs, je me perds dans mes histoires. C'est une tête féminine. Alors, j'ai du mal à l'identifier parce qu'elle a une typologie un peu ambiguë qui oscille entre une Vénus et une Diane.
Mm.
Elles portent toutes les deux la même coiffure sur les types statuaires bien connus. Donc, ces types statuaires étant la Vénus du Capitole de Scopas, hein, le grand sculpteur, ou la Vénus de Médicis. Toutes les deux sont des œuvres du IVe siècle et qui ont justement la Vénus à cette tête un petit peu penchée, comme ça, oui. Avec cette coiffure, avec ce qu'on appelle le crobilos, hein, ce nœud de cheveux sur le dessus de la tête. Et le problème, c'est que on a plusieurs types de Diane qui ont exactement la même coiffure et qui ont la tête un petit peu penchée avec un mouvement un petit peu vif, notamment la Diane de type Latéran, donc de Latéran du musée du Vatican. Donc. Et on en a une aussi au Louvre, hein, le type Rospigliosi, qui est pratiquement comme ça, identique. Donc du coup, je vais avoir beaucoup de mal à vous dire si c'est une Vénus ou une Diane, malheureusement. Mais par contre, ce qui m'intéresse, c'est son lieu de provenance, qui est de boulevard Jean Jaurès, comme par hasard, une fois de plus, et ce qu'on appelle l'îlot Théron à l'époque, qui est donc un peu au sud du boulevard, et qui est aussi un quartier d'habitat. Voilà. Donc là, typiquement, on aurait une belle sculpture. Hein, parce que là, c'est
très alors, belle la tête sculpture. Mesure à peu près.
Alors, elle est grande, hein, elle fait 40 cm avec le cou.
D'accord.
Donc, on est sur de la statuaire pour un 40 cm. Là, on atteint les 1,70 m, à mon avis, facile.
Et alors, on n'a retrouvé rien d'autre.
Et malheureusement. D'accord. Malheureusement, et c'est bien dommage. Et d'ailleurs, je pense à ça, je ne l'ai pas cité, mais on a un beau buste de Vénus qui est exposé juste en dessous de cette tête dans le secteur religion, qui est d'un beau format aussi, qui à mon avis n'est pas loin de ce format-là, et qui est aussi, alors là, on l'a retrouvé carrément dans des déchets, avec la fameuse tête de Tibère. Alors, le fait qu'on l'ait trouvé avec la tête de Tibère, moi, je me demande si elle ne provient pas d'un lieu public.
Oui.
Voilà, parce qu'on sait que les déchets qui ont été trouvés en dehors de l'enceinte, du rempart, au niveau de la porte c'est la porte de France, à peu près, hein, puisqu'on est entre le Quai d'Euro et la porte de France, on sait que dans ce secteur-là, à un moment donné, on y a apporté des blés du sanctuaire de la Fontaine.
Ah d'accord.
Ouais, faut le savoir. Donc l'hypothèse est osée, hein, je dois le reconnaître, mais pourquoi pas.
En tout cas là, au musée de la Romanité, on a l'occasion de vénérer des dieux majeurs, hein, puisqu'on a Apollon, Vénus, Diane dans la foulée.
Voilà.
On va marquer une petite pause et on se retrouve tout de suite après, Cécile. Alors, Antiquissimo, Cécile Carrier, Musée de la Romanité, deuxième volet d'une longue série que nous consacrons à l'étude du décorum, du décor de la maison. Et nous sommes en pleine vénération de statues divines et nous allons continuer maintenant avec Bacchus.
Oui, Dionysos. Donc, on est toujours, parce qu'on a fait une première partie sur le culte domestique. Et ensuite, on est dans la deuxième partie sur les copies de grands chefs-d'œuvre grecs qui sont dans la maison, mais qui ne sont pas forcément des statues de culte. C'est ça, notre problème, c'est qu'il y en a, on peut supposer, les petites figurines, on en a parlé, elles peuvent être des statues, des figurines de culte dans dans le lieu de culte domestique. Mais quand on est sur de la grande statuaire, comme on a vu tout à l'heure, l'Apollon de Lédignan, ou la tête de Vénus Diane, on est dans du grand format, ça ne rentre pas dans un larère ou dans une petite niche. Donc là, on peut supposer que c'est plutôt du décor pur, non plus du culte à la divinité. Et là, on va toujours être dans de la copie d'œuvres grecques, mais avec le Dionysos et son cortège, on va rentrer dans quelque chose qui va aussi être dans le mignon. On va comprendre tout de suite pourquoi.
Alors, Antiquissimo sur Radio Alliance Plus veut absolument inciter les auditeurs à aller au Musée de la Romanité voir ses œuvres. Où se trouvent-elles ?
Alors, la plupart des œuvres que je vais citer maintenant sont exposées dans la mezzanine où il y a la reconstitution du cubiculum de Brignon.
Ah oui.
Je n'arrête pas d'accrocher mes mots aujourd'hui. c'est la vitrine qui est sur le côté, une longue vitrine que les gens souvent ne voient pas parce qu'elle est un peu dans le sombre vu qu'on met le focus lumière sur le cubiculum. Mais dans cette vitrine, il y a plein de petits objets mignons en marbre qui sont donc des éléments décoratifs, hein, sculptés, qui sont vraiment caractéristiques du décor de la maisonnée. Et dans ce décor, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'objets qui se réfèrent à Dionysos et à son cortège. Et ça, vraiment, j'insiste dessus. Alors, les gens vont me dire, mais pourquoi ? Alors, déjà, quand on voit les objets, c'est des objets plutôt mignons.
Oui.
Un petit peu débridé, on va dire, oui, avec des corps un peu débris, un peu nus.
Et alors,
un peu...
la pierre qu'on aperçoit sur les images.
Il y a beaucoup de marbre.
Voilà, c'est du marbre.
C'est des petits marbres, oui. Là, on est sur le 1er siècle, un petit peu avancé. Donc, du coup, le marbre commence à arriver à Nîmes avec les riches maisons qui commencent à se construire. Donc, on commence à laisser un petit peu le calcaire local et on va sur du marbre. Alors, surtout que la plupart de ces objets sont faits un peu à la chaîne dans des ateliers, souvent en Italie. Donc, après, on sait qu'il va y avoir des ateliers dans des grandes capitales de province, mais c'est vrai que là...
Et sur Nîmes, on sait s'il y a des ateliers.
Oui, mais provinciaux avec de la pierre locale. Oui, on voit bien le grand ensemble de la route Beaucaire. La pseudo-Antonia aussi, c'est du calcaire local fait par des artisans locaux qui, entre nous soit dit, sont d'extrêmement belle qualité.
Exactement. Et alors là, ce marbre, on y aperçoit, il est strié de tas de petits trous.
Alors oui, parce que nous sommes dans les personnages dionysiaques que sont les Silènes et les Satyres, qui sont, alors les Silènes notamment, sont souvent représentées avec plein de poils. Ceci explique cela. Donc,
ils ont l'aspect sauvage.
Ils ont l'aspect sauvage. Alors pourquoi on en trouve tant de ces petits personnages? C'est parce que, avec leur sexualité débridée, puisque là on est vraiment dans la sexualité débridée, ils sont gages en fait de prospérité, de fertilité. Ils sont protecteurs de la famille et de ce que produit la famille. Parce que là on est toujours pareil, on a des produits artisanaux, mais on a aussi beaucoup de propriétaires terriens. Donc, tous ces personnages apportent vraiment la protection et la fertilité et la fécondité à la famille. Donc, vous avez les satyres, les silènes, Pan, qui fait partie aussi, finit par intégrer ce cortège dionysiaque. Donc, c'est tout cela.
Et là, on est toujours entre deux, animal, homme.
Oui, tout à fait. Ils sont à la marge.
Oui.
Ils sont à la marge. Et c'est aussi cela qui les caractérise dans leur puissance, cette puissance sauvage qui apporte vraiment cette protection. Donc ça, c'est vraiment intéressant. On en a parlé pour l'exposition Oliver Laric. D'ailleurs, l'un d'entre eux, c'est le fameux Pan qui porte le bébé Dionysos. Hein, donc, on ne va pas trop y revenir dessus parce qu'on en a parlé, qui est typiquement dans cette thématique de protection de la famille et dans aussi la thématique de la protection de la maison.
Donc, je reviens à ces petits trous. Donc, c'est la trace de l'emplacement des poils, c'est ça ?
C'est les poils qui sont représentés.
D'accord.
Tout à fait.
Et
oui,
quant
oui.
aux orbites, les yeux ont disparu, mais on imagine bien qu'il y en avait.
Oui, dans le silène, là, qui est tout velu, là, parce qu'on a un buste, là, on regarde ce buste avec des poils de partout, hein, d'un personnage barbu. Alors là, typiquement, c'est un silène. On pourrait presque dire un papo-silène. Hein. Les papo-silènes sont des silènes encore plus âgés et encore plus.
Oui,
sauvage.
Il y a quelque chose de primitif. Hein,
oui. Et d'ailleurs, le petit.
Il est anguleux dans son visage.
Il est aussi très massacré, pauvre bête. Et le petit pied qu'on a, il y a un petit pied à côté qui est représenté. Et ce petit pied, souvent on passe à côté, mais il est très intéressant parce qu'il est tout poilu. Et là, c'est vraiment typiquement le papo-silène.
Oui, c'est pas son habit, hein, c'est sa peau.
Alors, c'est là où il est très particulier et très intéressant. Parce que soit c'est effectivement un papo-silène, c'est-à-dire le vieux silène tout poilu, tout bedonnant, tout ça, soit ça peut être la représentation d'un acteur jouant papo-silène qui revêt un costume plein de poils. Alors là, évidemment, je ne peux pas vous dire puisque je n'ai que le pied. Donc, je ne peux pas vous dire. Parce qu'en général, les acteurs en papo-silène, on arrive à l'identifier parce que le sculpteur, souvent, représente le masque de théâtre. Or là, comme j'ai que le pied, je ne peux pas vous dire.
Ben oui.
Ouais. Et dans la vitrine, vous avez à côté aussi un silène un peu massacré. On a un peu la tête, puis une partie du buste. Et
on
il tient une outre.
Il a été.
Il a cassé au niveau des jambes. Ouais. Donc, mais en fait, il devait être accroupi. Et il tient une grosse outre dans le dos, en fait.
Ah oui.
Et donc, vous voyez, ça fait quand même beaucoup de personnages du monde dionysiaque. Malheureusement, on a que le bébé Dionysos, on n'a pas Dionysos vraiment lui-même entier, malheureusement. Et donc, tous ces petits personnages sont dans cette vitrine, on les voit bien, sauf le Pan avec Dionysos qui, lui, est dans le secteur religion. Parce qu'il fallait quand même essayer de représenter Dionysos dans le secteur religion, malgré tout. Donc, voilà. Donc ça nous fait quand même beaucoup de représentations. Et là, vraiment, quand on regarde dans le territoire pompéien, que ce soit Pompéi, Herculanum, on a énormément de ces représentations de Dionysos et de son cortège. C'est vraiment quelque chose de c'est vraiment mais abondant.
C'est le pendant d'Apollon, enfin, c'est vraiment le complément.
Et puis, ce qu'il a, c'est que par rapport à Apollon, Dionysos, il a vraiment ce côté très, très protecteur. Apollon, en fait, c'était le protecteur d'Auguste. Une fois Auguste parti, le culte d'Apollon s'est quand même beaucoup diminué, hein, franchement. On n'en voit pas tant que ça, en fait,
mais
des
Apollons. Il est beaucoup plus distant, Apollon, tandis que Dionysos fait partie de l'univers rural.
Oui, beaucoup plus. Oui. Oui, il est beaucoup plus proche des gens, je pense. Et puis, Parsucellus, par exemple, dans les provinces de Gaule et de Germanie, on avait un équivalent. En plus, Apollon, il est protecteur des sources. Enfin, il est un dieu des sources, et notamment des sources thermales. Souvent, il est souvent associé. Donc, les gens s'y retrouvent. Mais c'est quand même particulier. Alors que Bacchus, on l'a dans les maisons, on l'a dans les gymnases, on l'a dans les théâtres. Bon, Apollon, si vous me direz. Mais, et puis, ce qu'il y a, c'est qu'avec Bacchus, vous avez tous ces petits personnages. Donc, ça multiplie aussi l'appel à Bacchus.
C'est-à-dire que voilà, Apollon, il est, tout seul dans sa tour d'ivoire.
C'est un peu ça.
Tandis que Bacchus, il a ses copains.
Les nymphes, parce que les nymphes aussi en font partie. Ouais.
Bah écoutez, on a franchi pas mal d'étapes aujourd'hui, mais il nous en restera encore beaucoup
pour
la prochaine fois.
Oui, on pourra continuer.
Alors, de quoi en parlera-t-on?
Avec toujours du décor de la maison, mais on va passer sur d'autres types de statues, notamment les statues de genre qui fourmillent dans les maisons également.
Eh bien, merci beaucoup, Cécile.
Merci à vous.
On vous laisse retourner au Musée de la Romanité, où il paraît qu'il y a beaucoup de boulot.
Oh oui.
À la prochaine fois, au revoir.
Radio Alliance Plus, 103.2 FM, à Nîmes.